Demain, notre planète. France Inter et la Massif vous proposent un cycle de conférences animé par Mathieu Vidard.
Bonjour, c'est Mathieu Vidard. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'animer la première conférence du cycle France Inter « Demain, notre planète » pour parler des changements nécessaires à la transition écologique. Je recevais pour en parler Hubert Reeves, la philosophe Cynthia Fleury, la juriste Valérie Cabanès et l'astrophysicien Aurélien Barraud. Je vous propose de découvrir cette soirée en podcast dès aujourd'hui et je vous donne rendez-vous le 28 janvier pour la deuxième conférence sur le thème « Se nourrir ». En direct du studio 104 de la Maison de la Radio et dans les 150 salles de cinéma en France, près de chez vous. Bonne écoute. Merci d'être avec nous ce soir. C'est vrai que depuis maintenant très longtemps, depuis de nombreuses années, les scientifiques nous alertent au sujet de cette crise écologique que nous traversons. Nous les entendons, il semblerait en tout cas que nous les écoutions depuis quelques temps seulement, avec l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique qui sont véritablement les symptômes les plus préoccupants aujourd'hui. Alors on parle tant de transition écologique, si indispensable justement engagée pour notre avenir, eh bien on va essayer de voir quels sont précisément les changements possibles pour faire en sorte d'imaginer ensemble un monde durable et comment peut s'incarner ce fameux réveil écologique dont on parle tant pour préserver tous ces écosystèmes et rendre socialement et écologiquement durable le monde et notre planète. C'est ce que nous allons voir donc ce soir. Quatre invités qui vont se succéder sur scène, qui, vous le verrez évidemment dans chacun de leurs domaines, vont nous éclairer sur ces enjeux à venir. Je leur poserai également des questions de la part des internautes qui ont été très nombreux à nous joindre sur les réseaux sociaux de la Terre au Carré. Demain, notre planète, c'est donc parti pour ce premier rendez-vous de ce cycle de conférences proposé par France Inter. Il y en aura trois tout au long de cette année. Et notre premier invité est sans doute le scientifique le plus aimé des Français. Vous le connaissez très très bien depuis très longtemps. Astrophysicien, il est né au Québec. Il a dit que nous étions tous des poussières d'étoiles. Il a beaucoup maintenant eu d'engagement autour de la nature. Il est président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Voici Hubert Reeves.
Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette soirée, on voudrait qu'elle soit sur les motifs d'espoir. Le problème, c'est qu'on parle beaucoup des problèmes, des choses qui vont mal, qui se détériorent. On ne parle pas beaucoup de ce qui se fait de bien. Et il faut le savoir, il y en a beaucoup. Et ça, c'est important psychologiquement pour ce qu'on appelle généralement le moral des troupes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du pessimisme, est-ce qu'il y a du c'est foutu, ou bien s'il y a quand même quelque chose, un espoir, une énergie, parce que pour que l'énergie agisse, il faut qu'il y ait de l'espoir. Eh bien, je pense que c'est intéressant de dire oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont mal, oui, c'est vrai qu'il y a des choses menaçantes, mais il y a aussi des choses qui vont bien, et ça fait longtemps, ça fait plus d'un siècle déjà que les humains sont coincés avec ce problème. Et il y a des nouvelles fortes intéressantes. Je vais vous en apprendre quelques-unes précisément, comme par hasard. Il y a deux jours, une nouvelle fantastiquement importante. Quelque chose est arrivé qui est très positif. Et ça, il faut le savoir, il faut le marteler, il faut le dire, justement pour éviter le pire danger quand on est dans un état de crise. C'est le désespoir, c'est assez foutu. Donc, puis je vous raconterai quelques bonnes nouvelles. Quand on me demande, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal, je pense qu'il faut dire les deux. Les deux. C'est-à-dire, il y a deux mouvements parallèles qui s'opposent, un mouvement de détérioration qui se poursuit, mais en même temps, il y a des choses positives qui se font, qui nous mettent dans l'idée que tout n'est pas foutu. C'est pas sûr qu'on y arrivera, mais c'est possible, et le fait de le savoir est déjà très moteur, très mobilisant. Donc je pense que si cette soirée avait pour effet simplement que vous pourriez en ressortir avec l'idée, ça commence à bouger, même ça bouge beaucoup. Nous sommes encore une fois entre deux pôles, deux puissances, une force de détérioration, mais aussi une force de restauration, qui prend de l'importance, qui devient de plus en plus active et qui nous laisse penser qu'après tout, il y a peut-être un avenir.
Hubert Reeves, notre invité ce soir, premier invité Et on va s'installer, Hubert, dans ce fauteuil, ici même. Ben, ça fait du bien, s'il y a un peu d'espoir, on ne sera pas venu pour rien, en tout cas ce soir déjà. Et on va essayer de trouver des idées et de comprendre aussi les enjeux, évidemment, très très importants. Changer, c'est le mot, nous, qu'on a choisi ce soir. C'était compliqué de résumer, au fond, cette idée de la transition écologique qui est au cœur, vraiment, des préoccupations aujourd'hui. Est-ce que ce mot est assez fort pour vous, Hubert, changer ?
Changer en profondeur, ça c'est clair. Les hypothèses, les projets qui sont présentés de nous déplacer vers d'autres planètes, il faut dire qu'elles sont très loin, mais on ne sait jamais, ça oublie que si nous ne changeons pas notre façon de traiter la Terre, de traiter les animaux, de traiter la vie, nous risquons de ne pas réussir et si nous émigrons, nous referons les mêmes erreurs. Avant de quitter la Terre, il faut s'assurer que nous sommes en mesure d'améliorer notre conduite et de ne pas transporter ailleurs les problèmes que nous créons ici.
Alors ça, du coup, c'est la question à l'astrophysicien, mais imaginez choisir un plan B, c'est-à-dire une autre planète, dans le cas où la nôtre est totalement inhabitable, est-ce que c'est complètement fou ou est-ce que finalement, dans les décennies, dans les siècles à venir, on pourrait imaginer cette chose-là ?
Ça paraît un peu excessif. Pourquoi? Parce que les étoiles, ils sont vraiment loin. Et qu'un arche de Noé, imaginons qu'on fasse un arche de Noé, qu'on veuille transporter sur une de ces exoplanètes. Vous savez que maintenant, nous savons qu'un bon nombre d'étoiles autour de notre Soleil ont des planètes comme notre Soleil. Et donc, les projets de transporter les êtres humains, c'est pas impossible, mais avec la technologie d'aujourd'hui, c'est 60 000 ans de voyage. Qui voudrait voyager pendant 60 000 ans?
Ça oui, me paraît c'est un petit peu long, effectivement. Donc on va s'occuper de notre planète en attendant, on a déjà pas mal à faire. Est-ce que notre humanité aujourd'hui, Hubert Riis, traverse une crise tout à fait particulière ou est-ce qu'au fond, dans l'histoire du vivant, notre Terre en a connu bien d'autres?
Il y a eu beaucoup de crises, celle-là est particulière à cause de son étendue. Il y a eu des crises locales, il y a eu des pays, des événements qui se sont passés, des réchauffements très importants, mais jamais ça n'a été à l'échelle de la planète, jamais ça n'a menacé la vie tout entière, jamais on est arrivé à se dire « nous pourrions disparaître ». Notre problème, les êtres humains, c'est que nous sommes formidablement intelligents, nous avons développé des puissances fantastiques, nous sommes de beaucoup l'espèce la plus puissante qui a existé, et cette puissance nous menace. Et si vous voulez un exemple frappant, c'est la guerre froide. La guerre froide, dans les années 1970, 80, 90, on savait que l'humanité elle-même était menacée, et menacée par quoi? Par sa propre invention. Les bombes atomiques, c'est notre invention. Le problème fondamental pour l'humanité, c'est d'apprendre qu'elle est extraordinairement puissante, que sa intelligence qui lui a sauvé la vie dans bien des circonstances, aujourd'hui la menace. Est-ce que nous sommes capables de vivre avec notre puissance sur deux plans? Le plan de la guerre nucléaire, vous savez, il y a eu, on voit que c'est pas tout à fait terminé, il y a encore des questions autour de la Corée, et sur le plan de l'écologie, c'est-à-dire notre façon de ravager notre planète, c'est aussi grâce au fait que nous avons des armes très puissantes. Donc on peut dire, c'est pas nouveau que les êtres humains ont un comportement ravageur vis-à-vis de leur planète, c'est nouveau qu'avec l'augmentation de la population, cela pourrait nous faire disparaître. Le slogan que j'aime, c'est dire, il faut garder la planète habitable. La planète, elle va se débrouiller, elle va continuer à tourner autour du Soleil, il n'y a pas de problème. Il faut nous mobiliser sur cette question de dire, on ne va pas céder. Je pense à Churchill avant, dans les années 40, qui disait aux nazis non, tout simplement non. Nous disons la même chose, non, nous ne laisserons pas cette planète devenir inhabitable, mais cela va demander d'énormes efforts, et il faut avoir une attitude dynamique, une attitude militante, et non pas simplement une attitude « oh, ça va mal, c'est foutu ». Voilà. Je pense encore une fois que si cette soirée pouvait faire paraître à de plus en plus de personnes l'idée que ça n'est pas foutu, qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a ce double point de vue. Ça va bien sur le plan de ce qui se fait, ça va mal sur le plan de la suite, de la détérioration. Nous sommes dans une espèce de bataille, et cette bataille, il faut la gagner. Et le prix de la gagner, c'est de montrer que nous sommes capables de coexister avec notre intelligence, que l'intelligence n'est pas un cadeau empoisonné.
Alors Hubert, justement, parmi les questions des internautes là qui sont arrivées tout au long de la semaine sur le site de la Terre au Carré, il y a Axel qui nous dit ceci, l'urgence climatique est aujourd'hui parfaitement établie, mais la grande majorité des individus ne semble pas prête justement à remettre en question son mode de vie et préfère s'en remettre à d'hypothétiques solutions technologiques de demain. Dans ce contexte, donc, et vu l'inertie effectivement de la population autour de la biodiversité, comment est-ce qu'on peut essayer d'envisager de vivre en harmonie avec notre Terre aujourd'hui? C'est compliqué finalement ça.
C'est le problème majeur. C'est le problème majeur d'arriver à alerter, à mobiliser de plus en plus de gens autour de ce problème fondamental qui est essayer de garder la planète habitable. Et je reviens à cette question des exoplanètes. Je pense qu'on peut considérer, si on veut donner une dimension cosmique à ce qui se passe aujourd'hui, que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire être menacés par le développement de notre intelligence, c'est peut-être une sorte d'examen de passage. J'imagine, moi là je fais un peu de fantaisie, mais j'imagine que dans différentes exoplanètes ont des gens, ils sont habités par des personnages qui nous ressemblent. Bon, ça c'est une hypothèse bien sûr, mais c'est pas du tout impossible. Eh bien, ce qu'on pourrait penser, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un problème qui se présente à toutes les planètes qui ont vu la vie se développer chez elles et qui se sont retrouvées dans la même situation que nous aujourd'hui, c'est-à-dire ayant développé leur intelligence, la technique, la science. Ce que nous vivons aujourd'hui peut être vécu dans des quantités d'exoplanètes. Tous les habitants de ces planètes arrivent à un moment où ils ont à passer ce qu'on appellerait l'examen de passage, qui serait: êtes-vous capable de coexister avec votre puissance?
Alors Hubert, revenons sur Terre quand même, parce que ce changement, il faut évidemment s'en occuper ici. Par où il faut commencer finalement, selon vous? Et alors tout à l'heure, vous nous faisiez part d'une nouvelle très importante qui s'est déroulée cette semaine. Vous pensiez à quoi exactement?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 ou 4 jours, la banque qui est peut-être la plus grosse banque de la planète, c'est la Banque d'investissement européenne, a décidé, après une réunion de ses directeurs, de ne plus financer tout projet qui mettrait en danger la vie, la biodiversité, c'est-à-dire le forage pour avoir du pétrole, du charbon. Cela, maintenant, est exclu de cette banque. Une autre chose qui est importante, ça s'appelle le désinvestissement. Beaucoup d'universités américaines, d'universités anglaises, qui avaient mis des fonds dans des projets pétroliers, ont décidé là aussi de retirer ces fonds. Napoléon disait « l'argent c'est le nerf de la guerre ». Ben justement, là, ce qui est important, c'est que les gens qui défendent l'écologie, qui défendent la planète, touchent au milieu financier. Et le milieu financier, c'est toujours très important. Voilà donc 2 projets. Alors, je vous en donne un autre aussi, récent aussi. La baleine à bosse, c'est le plus gros animal de la planète. La baleine à bosse est passée tout près de l'extinction. Vous savez que depuis le 19e siècle, on tuait plus de 50 000 baleines à bosse par année. La baleine à bosse était devenue à 1% ou même moins de sa population. La plupart des gens pensaient que c'était foutu. Eh bien, en 1986, les Nations Unies ont nommé un projet, le projet Baleinier, et aujourd'hui, on vient de retirer les baleines à bosse de la liste des animaux en danger parce que leur population est redevenue ce qu'il était dans les années 1850. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne dit pas assez, et c'est important de le savoir pour avoir l'impression qu'on est dans une lutte qui n'est pas nécessairement foutue.
Sauf que Uber Eats, justement, les prévisions qu'on peut faire aussi pour l'avenir, on pense au rapport du GIEC par exemple, celui de l'IPBES pour la biodiversité, nous montre quand même un avenir extrêmement sombre avec déjà des effondrements, par exemple, des populations d'insectes pour les animaux en ce moment qu'on observe, ou évidemment la hausse des températures qui vont entraîner des effets en cascade. Vous gardez le moral, vous, par rapport à tous ces travaux scientifiques là qu'on nous montre en permanence ?
Je dis que rien n'est foutu. Nous sommes dans une lutte. Nous ne sommes pas dans une défaite, nous sommes dans une lutte. On voit, encore une fois, des quantités de choses qui s'améliorent. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des deux côtés des gains. On est dans une situation de lutte et il faut savoir, c'est important pour le moral des troupes, qu'on sache que ça n'est pas une guerre perdue à l'avance, qu'on pourrait la gagner.
Sauf que quand on prévoit une augmentation de température de 5, 7, 8 degrés dans les 50 ou 100 années à venir, vous ne croyez pas finalement les scientifiques dans ce qu'ils nous disent ?
Je me méfie des prédictions. L'avenir est inconnu et les hommes sont particulièrement maladroits quand ils font des prédictions. Pourquoi ? Parce que simplement, quand vous faites une prédiction, que vous dites qu'il va y avoir une éclipse de lune tel jour, ben vous savez très bien qu'elle aura lieu. Mais si quelqu'un vous dit il va y avoir un crash économique dans une semaine, c'est tout à fait différent. La différence, c'est que la prédiction d'un crash économique influence ce qui va se passer après. Et il se pourrait que simplement le fait que cette chose ait été annoncée suffise à la nier. Donc ça, c'est important de savoir. Et c'est pour ça que je dirais qu'un des éléments les plus importants, c'est de pouvoir redonner la confiance, non pas qu'on va réussir, mais qu'on peut réussir. C'est ça qui est la chose la plus importante. Dans les années 40, 50, c'était les années où on voulait refaire l'Europe et tous les gens pensaient que jamais les Allemands et les Français ne pourraient se réconcilier. Et un des hommes de cette époque, il disait « L'important, ça n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé à vraiment prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'il faut. Et à partir du moment où les êtres humains sont prêts à s'investir, ils font des merveilles.
Bon, on va vous inviter plus souvent hein, pour soulever l'enthousiasme. En tout cas, en ce moment, on en a bien besoin. Uber Eats, en tout cas, on va se retrouver à la fin de cette soirée. C'est vous qui viendrez d'ailleurs conclure. Votre dernier livre, ils sont nombreux d'ailleurs, c'est « Je chemine avec » aux éditions du Seuil, qui est ici. Alors, c'est une conversation justement sur votre parcours et la nature. Et puis, puisqu'on parle de biodiversité, il y a aussi des bandes dessinées qui vous concernent. Uber Eats, je vous explique, les océans, la forêt et la biodiversité. Tout ça est sorti. On vous applaudit, on vous remercie beaucoup et on se retrouve dans un instant. Vous allez pouvoir vous installer là-bas, Uber. Merci beaucoup à vous. Alors c'est vrai qu'au cœur des problématiques environnementales et de la crise écologique, eh bien il y a la question des relations que nous entretenons avec le vivant. Comment expliquer justement notre déconnexion à la nature ? Quels sont les moyens de renouer avec notre environnement ? C'est ce dont nous allons parler tout de suite avec la philosophe Cynthia Fleury, que je vous demande d'accueillir.
Moi, j'ai quatre essentielles raisons importantes pour expliquer à quel point cette transition écologique nous importe. La première, c'est, vous avez les travaux d'un chercheur que j'aime beaucoup, il s'appelle Éloi Laurent, et qui parle des boucles de vulnérabilité. Et ces boucles de vulnérabilité expliquent tout simplement que, à partir du moment où vous avez une absence d'état de droit, donc une défaillance en gouvernance démocratique, vous allez avoir à ce moment-là une spoliation des terres, des pillages, une surexploitation, donc une vulnérabilité environnementale. Et cette vulnérabilité environnementale, elle va donner lieu à une vulnérabilité socio-économique. Donc bien évidemment, tout ça est systémique. Et aujourd'hui, parler de justice sociale sans se poser la question d'un monde décarboné, parler de justice sociale sans justice environnementale, c'est manquer tout simplement la question de l'état de droit, de sa pérennisation et de cette liaison si importante entre le contrat social et le contrat naturel. Il n'y a pas de contrat social in abstracto. Hein, nous sommes absolument liés à ces questions de ressources. Donc ça, c'est le premier point qui me paraît absolument nécessaire. Le deuxième point, c'est en fait une affaire plus épistémologique. C'est une affaire plus épistémologique parce qu'il va falloir nous mettre à penser différemment. Et c'est fantastique. Donc c'est une question d'innovation. Il va falloir aller chercher tout ce qui concerne le biomimétisme. Il va falloir inventer des nouvelles technologies. Il va falloir découvrir, entre guillemets, ce qu'on appelle « éthique by design ». C'est-à-dire, au lieu de mettre l'éthique comme nous faisons aujourd'hui à la fin des procédures, il va falloir la mettre devant, hein, et d'essayer de voir comment l'éthique nous oblige totalement à repenser notre épistémologie. En gros, il va falloir faire de la vraie innovation et pas de la falsification de l'innovation. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est une aventure intellectuelle assez extraordinaire. Le troisième point, c'est la question clinicienne, c'est la question de la santé. En fait, on découvre de plus en plus, heureusement, on en avait bien évidemment l'intuition, que la nature a une place essentielle dans la question de la résilience de la santé physique et de la santé mentale. Bien sûr que les facteurs environnementaux aujourd'hui ont un poids considérable sur les maladies chroniques, que la question de la biophilie, on va peut-être en parler tout à l'heure, en fait, l'homme, pour être homme, a besoin du vivant. Il a besoin des formes de vie qui sont autour de lui pour se sentir mieux, tout simplement. Et donc ça, c'est un des points essentiels, cette grande découverte, si vous voulez, de la santé, hein, du fait que le grand, grand, grand allié de la santé, c'est la nature. Et puis dernier point, Hubert Reeves l'a dit tout à l'heure magnifiquement, Latour le dit un peu différemment dans un texte qui s'appelle « Atterrir ». Voilà, il y a un grand enjeu civilisationnel, historique, terrien, universel, vous l'appelez comme vous voulez. Les accords de Paris tentent cette aventure-là. Les jeunes qui descendent dans la rue, en fait, se rendent compte que demain, voilà, c'est l'histoire qui commence pour eux. C'est une immense aventure historique de retourner totalement notre façon de faire et de penser, de repenser précisément la question du progrès social. Et cette aventure civilisationnelle, elle est dans, je crois, un rapport qualitatif avec le vivant, et c'est en tout cas pour moi une grande aventure pour le 21e siècle. Voilà, je vous remercie.
Et c'est Cynthia Fleury. Voilà, Cynthia Fleury, vous êtes donc philosophe. De nombreuses études et très récentes nous montrent le rôle très particulier, vous l'avez dit aussi, de l'environnement sur la santé, en particulier sur les bienfaits de la nature. Et on connaît mieux aujourd'hui vraiment les effets positifs, Cynthia Fleury, de cette nature, de cet environnement sur notre bien-être physique et psychique.
Oui, on le connaît, on a mis du temps. C'est pas simple de mesurer, entre guillemets, ses effets. Et donc la question des indicateurs n'est pas simple. Et donc petit à petit, on a créé une quantité d'études pour montrer la place, encore une fois, de la nature. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Shirin-Yoku. Bon, vous le connaissez pas, moi non plus. Avant, je vais vous dire ce que c'est. C'est un bain de forêt. Bon, un bain de forêt, nous on appelle ça promenade. En l'occurrence, un bain de forêt, c'est quelque chose de plus puissant. Et vous avez des études aujourd'hui qui montrent que avant le bain de forêt et après le bain de forêt, ben, vos défenses immunitaires sont pas du tout les mêmes. Donc on a de plus en plus de d'études qui montrent que facteurs environnementaux, je l'ai dit tout à l'heure sur les maladies chroniques, mais la place de la nature dans la résilience de la santé mentale, des risques psychosociaux moindres, du stress moindre, une capacité de concentration et d'attention supérieure, etc., etc. Donc, oui, la nature, et puis les services écosystémiques de la nature sont absolument essentiels à notre bien-être. Et l'OMS pose une définition claire de la santé. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie, vous le savez, mais un état de bien-être physique, psychique, social. On pourrait rajouter environnemental.
Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on parle aussi beaucoup de cette perte de lien, justement, oui, à la nature, de cette déconnexion, même un désintérêt pour elle. Mais ça, c'est un vrai problème, justement. Quand on envisage le changement, finalement, ça commence par ça aussi, non? C'est d'être capable de poser les pieds, quand on est tout petit, dans la pelouse, sans avoir peur de se faire manger par les bestioles, quoi.
Mais vous avez raison, et vous avez cité tout à l'heure l'ouvrage avec Anne-Caroline Prévost, ma collègue quand j'étais chercheur au muséum, et Anne-Caroline avait fait un excellent travail aussi parce que elle cherchait justement à expliquer la place de la nature dans les représentations mentales chez les enfants. Et pour ça, elle avait choisi comme terrain, mais aux grandes merveilles, Disney. Et donc pendant que moi je travaillais sur des objets désagréables, elle regardait, elle visionnait tous les Disney pour voir comment la nature est représentée. Pour voir, à partir de 1937, Blanche-Neige, jusqu'à, je crois que c'était Moulin, ou je sais plus, ou Réponse, enfin bref, jusqu'aux années 2010, qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben, on se rend compte que, même chez Disney, hélas, les représentations de la nature sont beaucoup moins complexes. La présence de la multiplicité des espèces, beaucoup moins complexe. La question de l'anthropomorphisme, qui a toujours existé chez Disney, mais encore plus présent. Donc, manquant précisément l'occasion magnifique d'utiliser le dessin animé comme un viatique pour découvrir la vérité d'une nature et non pas, si j'ose dire, un homme caché dans la peau d'un ours, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'extinction de l'expérience de nature. Et c'est vrai que par le passé, nous faisions des expériences dites directes. C'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne prenait pas rendez-vous avec la nature. On allait à l'école et il s'avère que pour aller à l'école, on traversait une forêt, on marchait sur un sentier, que sais-je. Et puis l'urbanisation a fait que non, l'expérience de la nature est devenue indirecte. Et puis il y a ce qu'on appelle également du vicariant. Étonnamment, si les dessins animés, en tout cas certains, se sont appauvris du côté de Disney, vous avez d'autres grands univers qui se sont saisis de la représentation de la nature, type les jeux vidéo, où la nature est devenue quelque chose de très très important, à la fois de scénographique, mais également d'une architecture émotionnelle, etc. Bon. Mais quand même, malgré cela, vous avez une extinction d'expériences de nature forte et qui fait que le rapport, la familiarité avec le vivant, la banalité de ce contact n'est plus. Et c'est ce que Peter Kahn a appelé notamment l'amnésie environnementale. Et l'amnésie environnementale, c'est le fait que chacun d'entre nous, nous naissons avec l'idée que le temps où nous sommes nés, c'est en fait le point de départ de la nature merveilleuse. Sauf que non. Sauf que bien évidemment, à chaque fois, vous avez un phénomène comme ça de délitement de la nature et qui fait que de plus en plus, nous nous éloignons. Alors, ça, c'est au niveau majoritaire, encore une fois. Bien sûr, il y a quantité d'insularité. Majoritairement, oui, vous avez une extinction de l'expérience de nature.
Alors, c'est un problème, une fois qu'on devient adulte, justement, dans un moment comme le nôtre aujourd'hui, on a tant besoin de mobiliser précisément les forces. C'est-à-dire, quand il y a des déconnexions très, très jeunes, on a beaucoup de mal ensuite à rencontrer des adultes qui s'investissent ou qui sont intéressés tout simplement par le sujet environnemental.
Alors, c'est jamais simple de dire de façon linéaire qu'est-ce que va devenir un comportement humain. Parce que bien évidemment, un comportement humain, il se construit par mimétique, mais aussi par réaction, par contre. Donc, on a vu quantité, heureusement d'ailleurs, et c'est le cas de la nouvelle génération, d'enfants qui tout d'un coup se sont saisis de cet enjeu précisément. Parce que les parents ne s'en saisissaient pas. Beaucoup de jeunes générations sont conscients que la nature et le rapport apaisé avec la nature participent de leur santé. Toute cette génération, elle a envie, tout d'un coup, oui, de commencer une autre ère. Si on est ensemble ici aujourd'hui, c'est aussi parce que ce déclaratif-là ne se transforme pas immédiatement en action.
Alors, vous avez beaucoup travaillé également sur la notion de courage. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une valeur aujourd'hui importante justement dans ce contexte aujourd'hui de la transition avec ce constat catastrophique de l'écologie? Est-ce que précisément le problème, ça n'est pas que ça pourrait entraîner précisément une perte de courage?
La question du courage, bien sûr qu'elle est clé. Elle est clé, moi j'ai souvent défendu ça, Hubert Reeves parlait de détermination. Donc la détermination, ça a souvent besoin d'un moteur très simple qui s'appelle le courage, le sens de l'effort. C'est extrêmement difficile d'évoluer. C'est extrêmement difficile d'évoluer. Pourquoi ? Parce que notre premier réflexe est de maintenir une stabilité et de maintenir une sorte d'homéostasie qui fait que face à une pression de changement, la première chose qu'on va faire en stratégie de défense, c'est de bloquer. Bon, et puis tout l'enjeu, c'est précisément voilà cette collégialité qui est là aujourd'hui pour dire non. En fait, l'homme a besoin aussi de changer pour créer des nouveaux équilibres, et il y a nécessairement une version dynamique de lui-même. C'est-à-dire que l'homme, pour rester homme, doit en fait toujours, d'une certaine façon, changer. Donc, C'est un courage de la régulation qu'il va falloir. Il va falloir faire du plaidoyer, il va falloir changer les lois, il va falloir produire des formations dignes de ce nom. Donc voilà, les enjeux, ils sont partout pour nous permettre tout simplement de passer à l'action.
Alors, pour terminer peut-être aussi, parce que les enjeux, alors ce que les gens peuvent nommer les petits gestes, par exemple, et puis à côté de ça, évidemment, les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui doivent passer par des prises de décision beaucoup plus importantes, à des échelles aussi beaucoup plus importantes. Donc c'est aussi inventer une nouvelle démocratie, inventer une nouvelle gouvernance. On est dans ce moment très particulier, là, aujourd'hui. Hein ?
Alors, sur le papier, oui. Sur le papier, on rappelait tout à l'heure l'accord de Paris, c'est à ce jour le seul agenda réellement universel, géopolitique. Bon, maintenant, vous savez aussi que cet agenda, il n'est pas tout à fait contraignant comme on aimerait qu'il soit contraignant. Il est incitatif, il est volontariste, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai qu'il pose un cadre de normes qui montre que le chemin, si j'ose dire, de la transformation comportementale se situe par ici. Donc il est très 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 important. Mais derrière, c'est vrai que vous avez une révolution par les entreprises qui est compliquée. Voilà, c'est loin de cette conditionnalité, si vous voulez, sociale, environnementale, du profit. Pour la dire courte, cette économie décarbonée, etc. Voilà, on en est tout de même au début du début du début.
Vous êtes d'accord avec Uber Eats, tout n'est pas foutu. C'est une formule qui vous convient bien aussi, Cynthia Fleury, ou pas?
Oui, oui, ça me convient bien au sens clinicien du terme. Je l'ai souvent dit, mais je reste spinoziste, c'est-à-dire que je me méfie toujours des affects mélancoliques et tristes. Je pense qu'on ne construit pas une éthique sur précisément du découragement, et donc c'est pour ça que j'essaye toujours d'accompagner vers du capacitaire et du courage. Et ça produit ensuite, je crois, une éthique.
Cynthia Fleury.
Merci.
Merci à vous. Voilà, Cynthia, vous allez pouvoir vous asseoir aux côtés d'Hubert. Pour parler des droits de la nature, je demande d'accueillir la juriste internationale Valérie Cabanès.
Bonsoir. Vous savez, en tant que juriste des droits humains, ce qui m'a toujours, depuis l'enfance, véritablement bouleversée, c'était les inégalités dans le monde et l'incompréhension face à ces populations qui souffraient. Et pendant une vingtaine d'années, je suis allée accompagner ces populations au Burkina Faso, des personnes qui vivaient avec 1 euro par jour, au Cambodge, des prostituées qui étaient dans la pauvreté, qui n'avaient que ce moyen pour vivre, à la frontière du Pakistan et d'Afghanistan, avec des populations qui souffraient de la guerre, qui sautaient sur des mines antipersonnelles. Et ce qui m'apparaissait, c'est qu'en fait, à chaque fois, ces populations étaient en fait victimes d'un système, un système global, un système prédateur, un système meurtrier, violent, caractéristique de notre civilisation. Mais je ne comprenais pas véritablement les rouages de ce système. Et c'est il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à travailler avec des populations autochtones, avec des personnes comme Kaysekin Porinek. Je suis partie dans la forêt boréale, au nord du Québec, auprès des Innus, qui se battaient contre un projet de barrage hydroélectrique et qui n'arrivaient pas à faire entendre leurs droits. Et puis ensuite, j'ai accompagné le cacique Raoni, qui se battait, lui, contre un barrage hydroélectrique aussi, mais dans la forêt amazonienne. Et j'ai accompagné ces personnes dans leur combat juridique et j'ai compris qu'en fait, il y avait un renversement des normes depuis les années 70. J'ai compris qu'en fait, ces fameux droits de l'homme, dont nous sommes si fiers en France, étaient aujourd'hui assujettis au droit commercial, au droit des multinationales. J'ai compris que ces multinationales, elles, n'avaient aucune obligation. Elles sont dans une totale impunité, elles ne sont pas des États, et elles n'ont pas à respecter, par exemple, l'accord de Paris. Elles n'ont pas à respecter les obligations qui sont soumises aux États du respect des droits humains et des droits de l'environnement. Et donc, j'ai réfléchi à ce sujet et je me suis dit, mais comment faire? Et puis surtout, pourquoi on en est arrivé là? Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que nous avons construit cette fiction juridique, le droit qui régit les règles du vivre ensemble, à travers l'humain seulement. Et nous l'avons construit parce que nous avons été éduqués de cette manière, soit religieusement, parce que la Genèse nous explique que nous devons dominer sur tout ce qui vit, sur tout ce qui pousse, sur tout ce qui vole, sur tout ce qui rampe, sur tout ce qui est sur terre. Soit parce que le siècle des Lumières nous a dit, Descartes par exemple, que nous devons assumer le fait d'être maître et possesseur de la nature. Et nous avons donc construit nos règles du vivre ensemble en fonction de nous et nous seulement. Et nous avons oublié complètement de vivre en harmonie avec la nature, dans le respect des droits des autres éléments de la nature, des animaux, des végétaux, des plantes, des arbres, des fleuves, des forêts. Alors, on va en parler, Mathieu, je pense, mais je crois qu'il est vraiment important aujourd'hui de repenser notre place sur Terre, de repenser le fait que nous sommes interdépendants et que notre survie à tous va dépendre justement de cette reconnaissance de ces liens d'interdépendance avec le reste du vivant. Et il va falloir que cette fiction juridique, nous la transformions en une nouvelle histoire, une histoire qui puisse cadrer l'activité industrielle, qui puisse obliger les États à respecter nos droits et à respecter ceux de la nature.
Merci. Valérie Cabanès. Merci Valérie. Bienvenue à vous. Alors on va voir comment cette histoire peut se mettre en place véritablement, parce que là aussi il y a un énorme chantier, un levier juridique extrêmement important. Vous êtes donc juriste en droit international, spécialisé dans les droits de l'homme, et vous êtes porte-parole de ce mouvement citoyen End Ecocide on Earth et présidente d'honneur de Notre Affaire à tous, qui s'est créée à l'initiative de l'Affaire du siècle. Valérie Cabanès, vous appelez donc à un changement radical et urgent, que ce soit au niveau législatif, politique ou sociétal, et vous proposez d'abord par commencer à changer notre regard sur notre lien à la nature. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer justement des peuples autochtones? Parce qu'il nous semble très loin, et encore peut-être un petit peu moins maintenant, on est beaucoup plus sensible à ce qui se passe avec les feux de forêt, par exemple en Amazonie. Les peuples autochtones sont partout dans le monde. Ils ont, eux, un lien encore très particulier à la nature.
Ils ont un lien particulier à la nature, et surtout ils nous démontrent que la manière dont ils cohabitent avec les autres éléments de la nature permet de préserver la biodiversité. Les peuples autochtones, aujourd'hui, ils sont 500 millions. Ils vivent sur des territoires qui abritent 80% de la biodiversité du monde. Et en fait, depuis des millénaires, leur mode de gouvernance, leur cosmologie, la manière dont ils voient le monde, leur a permis d'être dans le respect et la déférence. C'est-à-dire que, et ça, c'est fondamental, leur rapport au territoire est totalement différent du nôtre. Ils considèrent qu'ils appartiennent à un territoire et non pas que le territoire leur appartient. Et à partir de là, ils sont capables, effectivement, de définir des règles du vivre ensemble qui respectent la notion de partage pour tous les êtres vivants, parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas survivre sans le maintien de la vie autour d'eux.
Alors que nous, pour reprendre aussi ce que disait Cynthia Fleury, finalement, nous sommes déconnectés de la nature, nous nous sommes isolés de plus en plus, et c'est ça aussi l'enjeu très très important, c'est d'arriver à faire machine arrière là-dessus. Hein.
En fait, c'est assez extraordinaire de se dire qu'on est déconnecté de la nature, parce que nous sommes la nature. Nous sommes un des éléments de la nature. Et nous avons même une chance extraordinaire, c'est que nous sommes la nature qui se regarde elle-même. Et de cette grâce, de cette conscience, finalement, nous avons péché d'arrogance. Nous nous sommes crus supérieurs, nous nous sommes crus hors sol, au point effectivement qu'on imagine pouvoir aller coloniser d'autres planètes. Si on n'intègre pas, mais je dirais presque viscéralement, et les bains de forêt dont parlait Cynthia sont effectivement une des clés, c'est cette reconnexion au vivant, cette reconnexion de la nature, de remettre nos pieds dans la terre, de connecter avec les arbres. Si nous ne comprenons pas que nous sommes un des éléments de la nature, alors nous ne pouvons pas effectivement faire cette révolution juridique qui est en fait une révolution des consciences. Le droit n'est que le reflet de notre niveau de conscience à un moment donné, et il est nécessaire d'abord de comprendre que nous sommes la nature pour pouvoir accepter de nouvelles règles du vivre ensemble et basculer vers un nouveau paradigme juridique.
Donc là, vaste chantier, évidemment, on s'en doute. Est-ce que vous êtes nombreux, justement, dans le monde, en tant que juriste, à vouloir défendre les intérêts de la nature? Parce que c'est bien ça dont il s'agit. C'est donner des droits à la nature. Vous allez nous expliquer comment ça peut s'incarner.
Alors, par exemple, effectivement, depuis la COP 21, je collabore régulièrement avec des personnes comme Casey Kampourinek au sein d'une alliance mondiale des droits de la nature qui fédère des associations du monde entier, des experts, des juristes. Nous travaillons aussi en collaboration avec une initiative au sein des Nations Unies qui s'appelle Harmony with Nature, en vivre en harmonie avec la nature, et qui essaye d'infiltrer, si je puis dire, le discours onusien pour intégrer le principe d'interdépendance comme étant la clé de toutes les nouvelles décisions qui doivent être prises pour l'humanité demain. Et puis effectivement, à travers les cas de reconnaissance des droits de la nature, on se rend compte qu'au-delà de citoyens qui peuvent le demander, il y a des États, mais il y a aussi des juges, des cours de justice qui s'emparent de cette nouvelle notion juridique, de ce nouveau concept, pour changer les règles du jeu.
Alors, il y a beaucoup d'internautes qui s'intéressent justement à ces questions. Il y a Gabriel qui aimerait savoir comment aller plus loin justement par les leviers juridiques. Comment passer par le droit? Vous plaidez pour un nouveau droit public international, donc donnant des droits à la nature. Donc on a envie de savoir exactement comment ça peut se concrétiser. Ça veut dire quoi donc donner des droits à la nature? Donnez-nous des exemples précis, oui. Valérie Cabanès, qu'on comprenne.
Oui, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait plus ça va et plus il y en a. Et ça devient presque exaltant.
Donc c'est déjà effectif.
Effectif. Alors je vais vous raconter rapidement, mais le premier pays au monde qui a reconnu les droits de la nature dans sa constitution, c'est l'Équateur, en 2008, qui a écrit deux articles expliquant donc que la nature avait le droit d'exister, de se régénérer, d'évoluer, et qu'elle avait le droit d'être représentée en justice pour défendre finalement son rôle. C'est-à-dire en fait que chaque élément de la nature puisse défendre leur rôle dans la communauté de vie, dans le maintien de la vie. C'est essentiel. Et ce pays, donc 2008, ça fait 11 ans, on en est aujourd'hui à 32 procès qui ont été menés au nom des droits de la nature. 25 ont été gagnés. Alors je vous donne des exemples, mais le tout premier, c'était en 2011. C'est une rivière qui voyait son cours perturbé par la construction d'une route et qui a porté plainte en disant, écoutez, non, là, moi, je vais finir par inonder les champs des gens. Bon, j'exagère, elle parle pas comme ça, mais c'est pour que vous compreniez. Mais l'avocat donc défendait l'intérêt à exister de la rivière au-delà de considérations utilitaristes vis-à-vis des humains, ce qui est le propre du droit occidental. Et elle a gagné, et cette route a dû être arrêtée. L'espèce requin dans les îles Galapagos. On a retrouvé un jour un bateau chinois de 100 mètres de long, avec 6200 requins à bord qui avaient été tués pour couper les ailerons. Le juge a considéré que cette activité était criminel vis-à-vis de l'espèce requin, parce que l'espèce requin est essentielle dans le maintien de la vie marine. Et il a fait condamner le capitaine et son équipage à des peines de prison, il a détruit le bateau et il a donné une amende à son armateur.
Donc on peut dire que les requins ont été représentés par un avocat?
Exactement. Alors juste pour l'anecdote, je connais bien l'avocat qui a défendu les requins, il a voulu justement parler au nom des requins. Et le juge lui a dit, écoutez, on n'est pas au théâtre ici, vous n'allez pas commencer à dire je suis le requin qui, j'ai très bien compris le rôle écosystémique du requin, j'ai très bien compris les enjeux pour maintenir la vie, préserver la vie des communs naturels, et effectivement je considère que cette activité est criminelle.
Donc il est possible de donner des droits à une chose non humaine?
Oui, alors donc il y a effectivement des États qui ont décidé donc de reconnaître, il y a eu la Bolivie, il y a trois États au Mexique aujourd'hui. Il y a des villes aussi, deux villes au Brésil, une ville en Argentine, et puis beaucoup plus surprenant, une vingtaine de villes aux États-Unis, blanches si je puis dire, plus quatre nations indiennes, dont celle de Casey Kemp, la nation Ponca, les Yurok, la bande de White Earth dans le Minnesota, et une quatrième, donc les Ho-Chunk, qui ont donc décidé pour justement contrer les projets industriels qui menaçaient leur territoire, les projets de fracturation hydraulique, les projets de pipeline de pétrole, ont décidé de reconnaître les droits de la nature parce qu'ils ne pouvaient pas prouver, et c'est ça qui est essentiel à comprendre, ils ne pouvaient pas prouver tout de suite les conséquences sur leur propre santé ou sur leur propre vie de ces projets industriels. Et ils ont donc compris, parce qu'ils avaient en soi pas besoin de le faire, dans leur droit coutumier, c'est une évidence que la nature a des droits. Mais ils se sont dit, il faut qu'on l'écrive dans notre constitution. Et les villes américaines ont fait la même chose, pour les mêmes raisons. Et ils ont expliqué qu'en fait, ça permettait de prévenir ces projets. En donnant une personnalité juridique à la nature, on peut à ce moment-là aller de façon préventive défendre son droit à exister avant la catastrophe. C'est la grande différence avec la France, par exemple, qui reconnaît le préjudice écologique. On va fêter les 20 ans de la catastrophe de l'Erika en décembre. Et qui a été une innovation juridique parce que le juge a créé un nouveau concept en droit en disant il y a eu un préjudice vis-à-vis d'un écosystème et il a donné une amende à Total à l'époque. Mais vous comprenez bien que le préjudice écologique ne peut être utilisé que quand la catastrophe a eu lieu. Et vu l'urgence climatique, vu l'urgence environnementale, il faut absolument qu'on se dote de moyens de faire stopper les dégradations en cours et donc effectivement d'imposer la transition énergétique, la transition écologique aux industriels et aux acteurs politiques qui les soutiennent. En fait, il me semble qu'il faut aujourd'hui reconnaître un nouveau type de crime international. Vous savez, il existe 4 crimes internationaux les plus graves contre la paix et la sécurité humaine. Le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime d'agression, le crime de guerre. Aujourd'hui, la survie de l'humanité et la survie, je dirais, de la vie elle-même sur Terre sont menacées. Et donc, il faudrait reconnaître un 5e crime contre la paix et la sécurité humaine qui soit le crime de destruction de notre maison commune, le crime que j'appelle d'écocide. Et avec ces deux pendants, la personnalité juridique de la nature dans le droit public et dans le droit pénal, la reconnaissance des atteintes les plus graves faites aux écosystèmes vitaux de la Terre, nous pourrions à ce moment-là poser ce cadre qui nous permettrait de respecter les limites planétaires, de les nommer comme des normes juridiques et d'imposer aux industriels de respecter les traités internationaux et surtout de respecter ces fameuses limites planétaires qui nous permettraient à tous de survivre et surtout aux générations futures.
Donc ça veut dire qu'il y a toute une justice environnementale qui est à inventer. Alors ce qui est assez encourageant, c'est qu'il y a déjà des exemples très très nombreux. On aurait pu parler du Vietnam, de l'Ouganda aussi, qui était le premier pays africain.
Oui, l'Ouganda vient cette année effectivement de reconnaître les droits de la nature par une loi adossée aux droits de l'environnement. Et puis après, il y a effectivement des juges, et ça c'est intéressant parce que ça rejoint la même dynamique que ce que nous avons fait avec l'affaire du siècle. Notre affaire à tous a eu cette idée, en fait, au moment de la COP21, de demander à l'État de respecter ses obligations climatiques. Et nous avons monté un dossier donc contre l'État pendant plus de 2 ans, en se disant, bah, puisque les politiques ne font rien, il faut que nous allions chercher le courage des juges. Et c'est exactement ce qui se passe aussi au niveau des droits de la nature. En Inde, une haute cour, dans un état du nord, himalayen, a reconnu le Gange, a reconnu son affluent, la Yamuna, puis 2 glaciers qui étaient menacés par le changement climatique, puis tous les écosystèmes sur son territoire et même le règne animal. Il lui a octroyé la personnalité juridique pour pouvoir défendre son droit à exister. Et ça a essaimé, puisqu'au Bangladesh, aujourd'hui, 450 rivières ont obtenu cette personnalité juridique, là aussi par un juge. Et puis en Colombie, où 25 jeunes ont saisi la Cour suprême en leur disant « Mais il y a un déboisement accéléré de l'Amazonie en Colombie. » En fait, très concrètement, c'est une menace à notre droit à un environnement sain. Et c'est une menace à notre droit en tant que génération future, puisque ce déboisement va contribuer à accélérer le changement climatique. Et le juge a dit, mais vous avez tout à fait raison. Je reconnais votre droit à un environnement sain. Je reconnais que vous avez des droits en tant que génération future, parce qu'il faut le savoir, un enfant qui n'est pas né aujourd'hui n'a pas de droit. Et donc, quand il est contaminé, comme au Vietnam, où le crime d'écocide est reconnu, par l'agent orange 50 ans plus tard, il ne peut pas demander justice, parce qu'il n'existait pas à cette époque. Et donc ce juge a reconnu le droit des générations futures, et il est allé plus loin, il a dit « En fait, la meilleure manière de protéger l'Amazonie, c'est de la reconnaître comme une entité vivante et comme une personne juridique, pour qu'elle puisse effectivement se défendre devant les tribunaux. » Et là, ça nous ouvre des perspectives extraordinaires, des leviers sur lesquels nous essayons de travailler en France aussi. Et donc, il faut bien comprendre la philosophie des droits de la nature. C'est une philosophie qui s'appuie sur, un, le rôle à jouer, deux, le fait que chaque espèce a des droits qui sont spécifiques à elle-même, et surtout que ce sont des droits fondamentaux comme est le droit à la vie, par exemple, pour les humains. C'est un droit qui n'est pas négociable et qui n'est pas assorti de devoirs.
Alors Valérie Cabanès, vous participez également, on le disait tout à l'heure, à faire connaître et reconnaître cette notion d'écocide à travers le monde entier. Alors c'est très étrange parce que ce terme, on l'entend de plus en plus, même dans la bouche de nos politiques, ce qui est quand même assez étonnant parce qu'il n'est pas reconnu en France, hein, encore ce crime d'écocide. Dans la bouche même du président Macron, par exemple, le Sénat français a rejeté cette notion d'écocide assez récemment. Qu'est-ce que ça pourrait donner si la France, par exemple, adoptait le crime d'écocide dans sa juridiction? Et est-ce qu'il y a des exemples en France, au fond, d'écocide ou de juridiction, de personnalité juridique qui pourrait être accordée à un écosystème?
Alors, c'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être hyper synthétique. Donc, effectivement, il y a eu une proposition de loi sur le crime d'écocide au Sénat qui a été débattue en mai. Qui, je le dis très sincèrement, était très mal rédigé, ils nous ont pas consultés, et le gouvernement a pu se défausser en expliquant que, en fait, oui, il reconnaissait que la notion d'écocide et l'idée de reconnaître un crime d'écocide était très importante, mais qu'il fallait que ça passe par la Cour pénale internationale, comme je le propose depuis effectivement 7 ans, et d'autres avant moi, parce que la France n'avait pas vocation à être gendarme du monde. Le discours d'Emmanuel Macron à propos des feux de forêt en Amazonie en disant « c'est un écocide » m'a permis de rebondir et de dire au gouvernement « bon ben très bien, moi je suis là le 2 décembre à La Haye avec des îles du Pacifique qui sont en train de littéralement être submergées par la montée des océans et qui ont créé un événement autour justement de la notion d'écocide. Venez et portez ce projet au niveau international ». Parce que si c'est effectivement une grande puissance du monde qui s'investit sur un sujet pareil, ça va créer effectivement un effet d'emballement. On a été pionniers sur les droits de l'homme, soyons pionniers sur les droits de la nature. Et donc là, il y a 2 nouvelles propositions de loi sur le crime d'écocide qui sont en train d'être portées au niveau de l'Assemblée. Une qui va être débattue le 2 décembre, qui est portée par un groupe socialiste, et une sur laquelle je travaille personnellement, qui vise en fait à avoir une coalition d'acteurs politiques de tous bords qui décident, parce qu'ils veulent défendre enfin l'intérêt général et pas des intérêts partisans et des intérêts particuliers, de s'associer dans la demande de la reconnaissance du crime d'écocide. Et je crois que la France a un rôle extraordinaire à jouer sur ce terrain-là.
Merci Valérie. Vous pouvez vous installer à côté d'Hubert Reeves et de Cynthia Fleury et on vous retrouvera tout à l'heure. De plus en plus de scientifiques, vous l'avez sans doute remarqué, prennent aujourd'hui un titre individuel ou collectivement d'ailleurs la parole pour dénoncer précisément l'inaction face à la crise écologique. Et celui que nous accueillons maintenant, vous le connaissez bien depuis assez peu de temps, en tous les cas dans ce rôle de défenseur de la nature. Il a lancé un appel pour sauver la planète avec 200 personnalités l'année dernière, dont l'actrice Juliette Binoche. Et lorsqu'il ne parle pas de relativité générale ou de physique du trou noir, puisqu'il est astrophysicien, il fait entendre sa voix pour évoquer la catastrophe écologique et sociale en cours. Voici Aurélien Barreau.
Bonsoir. Donc en effet, je travaille sur l'origine de l'univers, sur le Big Bang, sur la gravitation quantique, ce qui ne me confère stricto sensu aucune légitimité pour aborder avec vous ce soir la question écologique. Si je me le permets néanmoins, c'est donc au titre de simple citoyen du monde, au titre de vivant assez naturellement concerné par la disparition, au moins l'étiolement, de la vie sur Terre. J'aimerais donc que mon intervention ne soit pas thématiquement située, puisque ce n'est pas une parole d'expert, mais qui pourrait l'être sur un sujet aussi vaste. En revanche, j'aimerais qu'elle soit géographiquement située, parce que je parle depuis une vaste région du monde, qu'on nomme Occident, étymologiquement donc le lieu de la chute, et ce n'est pas tout à fait neutre, parce que toutes les études universitaires montrent aujourd'hui de façon non ambiguë l'extraordinaire niveau de prédation, et c'est un euphémisme, exercé par l'Occident sur le reste du monde. Pour des raisons de verrouillage systémique, sémantique, mais aussi d'ailleurs sémiotique, nous n'avons sans doute même pas les mots ou les concepts pour énoncer et donc dénoncer cet état de fait, ce qui devrait évidemment nous apparaître comme absolument inacceptable a fini par se confondre avec l'ordre d'un réel dont nous interrogeons même plus la contingence. Je crois que c'est un peu la même partition qui se joue aujourd'hui dans le champ écologique. Parce qu'une fois de plus, une fois de trop, ce sont ceux qui se trouvent loin de nos regards qui vont les premiers souffrir et mourir. Je pense bien sûr aux animaux, ces vivants que nous considérons, hélas, toujours comme un peu moins vivants que nous-mêmes et qui sont actuellement décimés. Vous savez bien que 60% par exemple des animaux sauvages ont disparu en 40 ans environ. Je pense également aux habitants des pays pauvres, ces êtres humains que nous considérons toujours, hélas, comme un peu moins humains que nous-mêmes et qui déjà souffrent de la faim, de la soif et des phénomènes de migration massive. Alors c'est un peu cynique de le dire comme ça, mais je crois que notre chance, c'est que cette fois, nous ne nous en sortirons pas indemnes. Cette fois, nous survivrons ensemble ou nous périrons ensemble. Parce que nous buvons la même eau, nous respirons le même air, nous contemplons les mêmes cieux. Il est regrettable que la belle idée d'altérité s'invite dans le débat pour de mauvaises raisons, mais je crois que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas saisir la balle au bon. Alors vous l'avez compris, ce dont il est question dépasse infiniment, pourrait-on dire, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par ici ou l'amélioration de l'efficacité énergétique par là. Ce n'est rien moins que d'une révolution écologique et sociale qu'il est évidemment question. C'est la raison pour laquelle je tente de plaider pour une résistance poétique, parce que le poétique, c'est l'implacable factualité d'une déconstruction qui respecte ce qu'elle affronte. Parce que le poétique, c'est la précision et la rigueur. Parce que le poétique, c'est une impérieuse nécessité de cohérence locale tout en conservant une sorte de droit à l'errance globale. Parce que le poétique, c'est un travail sur la langue, pour faire émerger des possibles qui n'étaient jusqu'alors pas même envisageables. J'ai donné peu de chiffres dans cette courte introduction. Je voudrais conclure avec celui qui me semble le plus important, le plus consternant, le plus alarmant. Peu de médias en ont parlé. C'est pourtant l'information majeure de ce temps. Le journal Le Monde l'a relaté en écho à une publication parue dans la prestigieuse revue de recherche Nature. Et elle montre que dans la branche de la vie qui comporte et de loin le plus d'individus, qui comporte et de loin le plus d'espèces, qui comporte et de loin la plus grande variété éthologique, la biomasse a chuté de 67% en une décennie. On ne peut pas comprendre ce chiffre et continuer comme si de rien n'était, manifestement un crime contre la vie. Un crime contre l'avenir est actuellement en cours.
Aurélien Barreau. Voilà, c'est terre de contraste hein, finalement ce soir dans ce qu'on peut entendre évidemment sur ce plateau. C'est tout l'intérêt évidemment aussi d'une diversité d'idées, de pensées. Ça fait aussi un écosystème ça en soi. Aurélien Barreau, vous êtes astrophysicien, donc je le disais, professeur à l'université de Grenoble. Vous avez publié récemment Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité aux éditions Michel Lafon, un livre qui a été lu par beaucoup de gens. Peu de pages d'ailleurs, hein. C'est un livre très resserré. Alors, vous évoquiez cette publication scientifique tout à l'heure, effectivement, sur un nouvel effondrement, en tout cas observé par les scientifiques autour des insectes et de cette biomasse. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement, ces études se succèdent, qu'elles sont absolument catastrophiques. Et finalement, les effets ne sont pas du tout à la hauteur aussi de ce qu'on nous dit là dans ces publications scientifiques et que nos élites politiques non plus ne prennent pas en compte ce que nous raconte la science. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de ça aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que précisément ces publications et ces états des lieux du monde véritablement nous fassent changer de comportement ?
Oui, c'est très compliqué parce que la question est d'une part scientifique, et ça vous avez raison de le rappeler. Je pense qu'ici on est un peu dans un microcosme là, donc on a l'impression que tout le monde est convaincu, mais on est très très loin déjà d'un constat unanimement partagé. Hein. Tout le monde n'est pas convaincu qu'il y a un problème, tout le monde n'est pas convaincu que le problème est d'origine anthropique, et tout le monde n'a pas compris, et ça j'y insiste, que le réchauffement climatique est loin d'être le seul problème. Donc sauver le climat c'est très bien, mais le climat en tant que tel, on s'en fiche un peu. Ce qui compte quand même, c'est de sauver les vivants. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, dans la 6e extinction massive, qui n'est pas une peur, mais qui est un bilan, puisque c'est déjà en cours, le climat ne joue pour l'instant presque aucun rôle. C'est notre expansionnisme humain débridé, c'est l'utilisation des pesticides qui est à l'origine majeure à ce stade de l'extinction de la vie. Donc en effet, il y a, comme vous le soulignez, la nécessité d'un constat scientifique qui est pratiquement incontestable. Ce qui est difficile, c'est le passage du descriptif, effectivement, au normatif, voire au performatif, c'est-à-dire à l'action. Alors ça, je ne sais pas bien, évidemment, comment il faut le faire, mais je pense que c'est une question qui dépasse de loin le scientifique, parce qu'elle engage aussi une vision. Par exemple, un monde dans lequel, je crois qu'il n'est pas possible, mais un monde théorique, dans lequel l'espérance de vie humaine ne baisserait pas, mais dans lequel nous aurions détruit quasiment tous les animaux et toutes les plantes, est-il problématique? Pour moi, la réponse est évidemment oui. Évidemment oui, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Pour certains, surtout probablement d'entre nous dans cette salle, la question est exclusivement quel est l'effet pour moi, moi en tant qu'espèce humaine. Et ça, bien sûr, ce n'est pas la science qui peut trancher là-dessus. C'est une question fondamentalement éthique. Et je crois qu'il faut effectivement la mettre sur la table. C'est pourquoi les pistes juridiques esquissées par Valérie Cabanès sont absolument essentielles, je crois.
Alors, pour les politiques qui, justement, décideraient véritablement d'engager des mesures d'ampleur, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous? Par quoi il faudrait passer? Et vous parlez très souvent de l'acceptation d'une certaine impopularité aussi. Donc, il faut arriver à des choses très contraignantes aujourd'hui. C'est ça aussi la clé du changement?
Oui. Alors là, je pense qu'il faut réfléchir en deux temps. Si on pense avec les indicateurs de l'ancien monde, il n'y a absolument aucun doute que ce qu'il faudrait faire relèverait d'une baisse de confort. La croissance économique n'est pas compatible, enfin, telle qu'elle se vit actuellement, elle l'a été dans le passé, n'est pas compatible avec un avenir durable. Ça, honnêtement, on ne peut plus en douter sérieusement aujourd'hui. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en effet, notre utilisation totalement débridée de biens matériels, très souvent d'ailleurs plutôt inutiles et débilitants, doit être revue à la baisse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que ce n'est quand même une perte de confort que parce que nous avons des indicateurs sclérosés qui, je crois, sont prisonniers d'un système qui est lui-même fondamentalement morbide. Pour être très clair, ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'ados découvrent que finalement, quand effectivement on utilise un peu moins son téléphone portable, en réalité, on s'ennuie pas forcément. On découvre d'autres manières d'être au monde qui peuvent être beaucoup plus enrichissantes. Moi, comme tout le monde, enfin comme tous ceux qui en ont les moyens, j'ai été passer mes vacances à l'autre bout du monde pendant un certain temps. L'été dernier, j'étais en Ardèche, comme j'habite à Grenoble, c'est à 100 km de chez moi. J'ai trouvé ça magnifique. C'était pas du tout une perte de confort. C'était extraordinaire. C'était sincèrement même beaucoup mieux que d'aller les passer à San Francisco. Donc ce n'est quand même une perte de confort que parce que nous avons une vision qui elle-même est déconstructible.
Alors ça, c'est une question qu'on peut tous se poser, d'ailleurs elle est revenue aussi sur les réseaux sociaux, la question justement de prendre l'avion aujourd'hui, qui interroge beaucoup dans notre façon de vivre aussi, et pour ceux évidemment qui ont les moyens de se payer un billet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus, mais lorsque c'est le cas aujourd'hui, finalement, découvrir le monde, voyager, c'est aussi intéressant pour soi, c'est aussi une forme de culture, tout ça est remis en cause aujourd'hui, Aurélien Barreau?
Non mais j'y crois pas à ça. Franchement, avoir besoin de faire 25 000 kilomètres pour croire toucher l'altérité, c'est bidon. Moi, si je discute ici avec n'importe qui tiré au hasard dans cette salle, je vais découvrir un univers qui n'a rien à voir avec le mien, avec des valeurs, des références littéraires, des références éthiques, des références esthétiques, politiques, épistémiques, qui ne seront pas du tout les miennes. Hier soir, je discutais avec mes parents, on n'a pas du tout la même vision du monde sur certains points sociétaux. J'ai pas besoin de faire 24 000 kilomètres pour voir un autre univers. Il faut se départir de cette idée que l'altérité n'est visible qu'à l'autre bout du monde. C'est pas vrai. Bien sûr, ponctuellement, localement, quand on est anthropologue ou quand on est un étudiant qui a économisé pendant 10 ans parce que le rêve de sa vie, c'est d'aller voir Tokyo, et on peut le faire. Mais j'ai entendu il y a pas très longtemps un des patrons de l'aéronautique mondiale déclarer la main sur le cœur, je crois qu'il pleurait un peu, qu'il voulait un monde où sa fille serait libre de prendre l'avion. Ben oui, mon gars, mais si ta fille est morte, ça lui servira à rien. C'est quand même ça qu'il faut comprendre aujourd'hui.
Aurélien Barreau, certains brandissent le spectre de la dictature verte, justement. Hein. S'il faut prendre des mesures contraignantes aujourd'hui, tout ça peut arriver très rapidement vers une forme d'autoritarisme. C'est aussi le danger, au fond, de ce qui peut nous attendre, non ?
Tout est dangereux. Ce danger existe sans doute, mais si on hiérarchise les dangers qui nous guette, je crois qu'il est totalement irrationnel de considérer celui-ci comme un de ceux qui nous menacent réellement. D'abord, quiconque connaît un peu la théorie écologique voit que rien ne saurait être plus éloigné de toute forme de velléité dictatoriale. Aujourd'hui, les militants écologistes, les lanceurs d'alerte, n'ont pas d'armée, pas d'argent, pas de lobby, pas de pouvoir. En ce qui me concerne, et pour beaucoup d'autres, pas de velléité politique. Et nous serions les futurs dictateurs, c'est quand même un peu gros pour être gobé. Maintenant, c'est vrai que sur certains points particuliers, il est possible qu'il faille une contrainte légale. Mais je ne comprends pas pourquoi cela suscite un tel émoi. Heureusement que nous sommes freinés dans nos comportements les plus nocifs. Si là, je vous agace, vous n'avez pas le droit de venir me poignarder. Tant mieux. Pourquoi a-t-on le droit de poignarder notre avenir ? Bien sûr que dès lors que nous avons des comportements qui sont trop orthogonaux au bien commun, la loi, et c'est normal, interdit ces comportements. Là, pour ce qui concerne le bien commun, je crois que l'écocide en cours, on peut difficilement faire plus drastique.
François, sur les réseaux sociaux, sur la page de la Terre au Carré, nous dit, vous qui êtes scientifique, Aurélien Barreau, est-ce que vous ne pensez pas que le progrès de la recherche puisse nous aider à trouver des solutions pour cette transition ?
En un mot, la réponse serait non, mais on peut la détailler un peu. Il ne faut pas évidemment jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que ponctuellement, il peut y avoir des avancées techniques et scientifiques qui sont utiles. Ça, c'est indéniable et il serait déraisonnable de le remettre en cause. Mais il faut faire très attention. Si demain, un ingénieur génial invente un téléphone portable dont la consommation énergétique est deux fois moindre, on se dit, bon, bonne nouvelle pour l'écologie. Je suis presque persuadé que c'est une mauvaise nouvelle pour l'écologie. Parce que nous ne sommes jamais, absolument jamais, à usage constant dans la vraie vie. Donc si la consommation est deux fois moindre, ça veut dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui le soir sur nos ordinateurs, on se mettra à le faire dans le bus sur les téléphones portables, et la surconsommation viendra instantanément surcompenser le gain énergétique. Donc, oui, de temps en temps, améliorer une solution technique est bienvenue, mais si ce n'est pas accompagné d'une révolution radicale de notre manière d'être au monde, ça ne peut pas marcher.
Quand on préparait cette émission ensemble sur le titre « Changer » là qui nous réunit donc aujourd'hui, vous disiez mais de toute façon c'est pas compliqué, il faut tout changer aujourd'hui. Hein. Donc ça c'est aussi une forme de radicalité dans le propos, mais en tout cas vous faites appel à une révolution. Qu'est-ce qui se cache une fois encore derrière ce mot de révolution ? Qu'est-ce qu'il faut entendre ?
Bon, écoutez, moi, je suis pas ni prophète ni gourou, donc je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Mais ce que je crois, c'est que le geste, finalement, le plus essentiel à faire maintenant, oui, c'est très bien de ne plus prendre l'avion, de ne plus manger de viande, de moins utiliser son téléphone portable. Oui, tout ça est très bien. J'essaye de le faire, je suis imparfait, mais en voie d'amélioration, je crois, comme presque tout le monde. Ok, ça c'est très bien. Mais le plus essentiel, c'est pas ça, c'est d'oser remettre en cause, pas forcément détruire, mais au moins interroger la totalité de nos valeurs. Le fait est que nos valeurs, pour le meilleur ou pour le pire, nous amènent aujourd'hui à un état critique quant à l'avenir de la vie sur Terre. Donc ce qui est certain, c'est qu'il faut travailler sur ces valeurs. Et je me rends compte même avec la charge symbolique des objets. Sincèrement, une voiture de sport ou un manteau de fourrure ou ce genre de choses, il y a quelques années, quelques décennies, c'était mélioratifement connoté. Ça nous rendait beaux aux yeux des autres. Aujourd'hui, je pense que la valeur s'est inversée, ça nous rend plutôt un peu ridicule, un peu plouc, limite un peu méchant. Et donc, une fois que ce sentiment nous a tous gagnés, pourquoi aurait-on encore envie de posséder de tels objets ? Donc je crois que ce travail symbolique aurait en fait un effet très concret et très performatif sur notre manière d'être.
Alors le constat est quand même très très sombre, hein, on l'entend quand même absolument partout. Il y a parallèlement quand même, et je dirais que c'est la face lumineuse de ce qui se passe aujourd'hui, une créativité, un dynamisme. Les gens essaient de trouver des solutions quand même, de se mobiliser, de faire ça individuellement ou collectivement. Ça c'est quand même très très important. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, c'est aussi un moment unique de notre histoire, non ?
Oui, alors ça c'est vrai, c'est la dimension extraordinairement belle, parce que contraint par le monde, nous sommes presque obligés de tout réinventer. Ça, c'est une chance inouïe, finalement, extraordinaire. Nous avons non pas seulement le droit, mais nous avons le devoir de questionner presque tout ce dont nous avons hérité, ce qui, effectivement, est extrêmement excitant. Et ce que je trouve beau aussi, c'est que dans cette prise de conscience, de nouvelles alliances émergent, et on se retrouve parfois à faire chemin commun avec des gens de cultures très différentes, de rapports au monde très différents, parfois des gens qui auraient une vision au sens scientifique presque opposée à la mienne, en fait, mais qui me rejoignent ou que je rejoins sur ces questions écologiques. Et ça, c'est plutôt beau parce que ça crée des frottements entre les cultures qui peut-être n'auraient pas eu lieu sans ce péril qui menace.
Arnaud nous a laissé une question, ce sera la dernière, sur les réseaux sociaux. J'adhère à 200%, dit-il, à l'idée d'imposer par la loi. Aurélien Barraud, aurait-il des idées et des exemples de lois envisageables et où une convention citoyenne pour en décider? Est-ce que ce serait une solution?
Oui, mais c'est un peu difficile parce que là, donner un exemple, c'est facile de donner des exemples, mais on les connaît par cœur, en fait, les exemples de ce qu'il faudrait faire. Mais je préfère utiliser ma dernière minute de parole pour souligner le fait que toutes ces petites choses que nous avons en tête, elles sont souhaitables, et j'espère qu'elles vont avoir lieu, mais elles relèvent quand même de rustines. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, parce que tout a des effets pervers. La taxation, par exemple, est très très efficace pour interrompre certaines activités nocives, mais elle est aussi très inégalitaire, parce que ça signifie que ceux qui ont les moyens, finalement, ne verront même pas cette augmentation des taxes. Donc, s'il n'y a pas une pensée nouvelle du commun, qui intègre effectivement les humains et les non-humains dans un système axiologique, c'est-à-dire de valeurs, qui n'a rien à voir avec celui dont nous avons hérité aujourd'hui, les mesures légales permettent de survivre un peu. Il faut les faire. On les fait pas du tout en ce moment, hein. Enfin, pas du tout de façon satisfaisante. On nous dit, il faut accélérer la transition. Non, mais c'est une blague. Avant d'accélérer, il faudrait commencer. Que si on part de Paris, qu'on veut aller à Lille et qu'on se retrouve à Marseille, il faut pas accélérer, hein. Il faut faire demi-tour. Donc, actuellement, on est dans cette situation. Et nous verrons bien.
Merci beaucoup, Aurélien Barraud. Ça s'appelle « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ». Voilà, cet ouvrage est paru chez Michel Lafond et il y aura une version, une nouvelle version enrichie qui va sortir bientôt. Je vous demande d'applaudir une dernière fois nos invités. Cynthia Fleury, Valérie Cabanès, Hubert Riz. Vous pouvez nous rejoindre, Hubert. Valérie et Cynthia également. Venez. Hubert, un petit mot pour se quitter.
Oui. Alors, ce que j'ai retenu des quatre qui ont pris la parole, c'est que nous sommes devant la nécessité d'élargir notre humanisme. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait l'être humain et puis les animaux qui devaient le servir, qui ne comptaient pas beaucoup. Et tous les progrès qui se font un peu partout, et nos amis l'ont aussi mentionné, c'est la nécessité pour nous. Nous sommes forcés d'élargir notre humanisme, c'est-à-dire d'intégrer les animaux, d'intégrer ce que j'appellerais nos compagnons de voyage, c'est-à-dire ceux qui sont avec nous. Nous sommes tous ici, sur cette planète, pour quelques décennies. Nous découvrons que nous sommes entourés d'êtres dont nous dépendons, qu'il est important que nous devons intégrer, et qu'il faut faire des lois pour les protéger. Nous nous rendons compte que nous allons dans le mur si nous n'intégrons pas cette nouvelle vision plus générale dans laquelle nous sommes une espèce qui est bien douée, qui se croit la plus importante, qui est en fait une des nombreuses espèces et dont notre survie dépend justement. Si nous continuons à les traiter comme nous les avons traités, nous irons dans le mur. Donc la bonne nouvelle, justement, de cette partie, de cette crise dans laquelle nous rencontrons, les crises ont toujours des effets positifs, c'est de nous forcer à regarder à nouveau toutes les espèces animales. Ça ne veut pas dire tous les accepter, ça ne veut pas dire d'inviter les moustiques ou les bacilles de Koch pour venir nous bouffer. C'est très important de réaliser que la nature est ce qu'elle est, on peut dire cruelle, mais que nous devons aussi survivre, nous sommes aussi en légitime défense. Mais ceci intégré, nous devons intégrer tous ces êtres à autre chose que d'être simplement des objets qui nous servent et que nous prenons et que nous laissons tomber. Moi, c'est ça l'élément que je trouve important dans cette phase que nous vivons aujourd'hui. On est forcé de se dire non, notre rapport aux animaux n'est pas bon. notre rapport aux animaux doit être changé, et ce qui se passe en ce moment nous montre que si nous ne le changeons pas, nous périrons.
Alors ne vous laissez pas bouffer par les moustiques, et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci infiniment.
En partenariat avec La Massif.
Massif, essentiel pour moi.